Méninges à 3. Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Méninges à 3. Méninges à 3, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont entendu la première qui a été diffusée en décembre 2011, donc l'année dernière déjà. C'est une émission qui vous est proposée par les trois plus grandes radios de l'Aveyron. Je veux parler de Radio Temps Rodez avec Jean-Pierre Alexandre. Bonjour Jean-Pierre.
Oui, salut Catherine, salut Nico.
Radio Saint-Afrique.
Et Manu. Et Manu, j'ai oublié de saluer Manu quand même.
Voilà, on allait le faire justement.
C'est que tu me vois pas derrière cette forêt.
C'est grand studio.
Manu de Radio Saint-Afrique.
Allez, meilleurs vœux à tout le monde.
Voilà. Oui, meilleurs vœux, exactement.
Vous me devancez, j'allais dire justement. Voilà, c'est la première de l'année, c'est l'heure de faire... Des vœux.
Poète.
Vous avez une idée? Qu'est-ce que vous voulez souhaiter aux gens? Vous l'avez peut-être déjà fait chacun dans vos radios.
C'est fait. Oui, on peut continuer.
Nous aussi, on a souhaité une bonne année à nos auditeurs.
Et donc, je rappelle que cette émission mensuelle regroupe donc nos trois radios pour vous informer les uns les autres. Nous, pour Radio Larzac, on a envie de savoir ce qui se passe dans la région de Rodez, dans la région de Saint-Afrique. Idem, on imagine, pour les auditeurs de Radio Saint-Afrique et pour les auditeurs de Radio Temps Rodez. Et à chaque fois, on tourne. La dernière fois, on était à Radio Temps Rodez. Cette fois-ci, nous sommes sur le Larzac, chez nous, Radio Larzac. Et la prochaine, Manu,
peut-être descendre à la capitale.
En février pour le carnaval.
Voilà.
En février pour le carnaval. Et donc cette fois, on a un menu une fois de plus assez chargé. Hein. Il se passe plein de choses dans l'Aveyron. On commencera par Jean-Pierre. Jean-Pierre, donc de Radio Temps Rodez.
D'accord. Et oui, moi, il n'y a pas de souci. On peut commencer par moi.
Si, comme on avait dit, comme on a dit tout à l'heure, c'est lui qu'on a entendu le moins, donc on va le faire parler.
Exactement, c'est ce que je me suis souvenu.
Manu.
On devait commencer par Manu, je commence par Jean-Pierre. Non, c'est parce qu'en fait, la dernière fois, son sujet a été censuré. Et du coup...
Non, pas censuré. On l'a mis de côté parce qu'il nous invitait et que par politesse, il a dit que... On démarrera par qui tu veux.
Donc, je reprends depuis le début. On commence par Manu de Radio Saint-Afrique, qui a beaucoup de vent, qui nous raconte toujours du vent.
Non, j'ai pas de problème gastrique, ni quoi que ce soit, ni intestinaux, mais voilà.
On suivra avec Jean-Pierre qui nous parlera culture à Rodez. Et la suite, si on a encore le temps, on parlera aussi de culture sur Millau, dans la foulée de Jean-Pierre. À toi Manu, tu voulais nous parler d'éoliennes, je crois.
Déjà, là, dans le premier numéro, on a parlé de vent, encore une fois. Mais cette fois-ci, donc, parce que le vendredi 27 janvier, il va se passer une grosse manif à Toulouse, puisque ça va être un rassemblement régional qu'organise la Fédération de l'environnement durable de Midi-Pyrénées. Donc un collectif de 40 associations qui défendent l'environnement de Midi-Pyrénées. Alors, on en parlera un petit peu tout à l'heure. On va simplement écouter le son. On a Anne-Marie Citon au micro d'Elsa Gourmand. Et on parle ensuite de ce problème éolien.
Le 27 janvier, le collectif 40 associations de défense de l'environnement Midi-Pyrénées appelle à une manifestation à Toulouse pour protester contre le projet d'implantation de 800 éoliennes géantes dans la région de Midi-Pyrénées. Anne-Marie Citon, présidente de l'association Patrimoine Environnement Territoire du Pays Belmontais, nous présente ce collectif, composé d'associations de plusieurs départements et affiliés à la Fédération Environnement Durable, la FED.
Écoutez, ils sont tellement nombreux que je ne vais pas vous les citer tous, toutes les associations, mais je peux vous dire qu'il y a des gens de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn, et ainsi que des associations de défense de l'environnement, patrimoine, à l'échelle nationale. Et nous sommes chapeautés donc par la FED, avec qui nous travaillons beaucoup, et qui effectivement nous aide beaucoup pour toutes sortes de raisons. Donc c'est beaucoup de monde qui atteste de l'invasion de ces projets éoliens et des réactions des populations au fur et à mesure.
La préfecture de région et le conseil régional sont à l'origine de ce projet d'implantation de 800 éoliennes en Midi-Pyrénées à travers le schéma régional Climat-Air-Énergie de Midi-Pyrénées. Anne-Marie Citon nous éclaire sur ce schéma qui concerne tout particulièrement le département de l'Aveyron, mais aussi d'autres départements, ainsi que les parcs naturels régionaux du Haut-Languedoc et des Grands-Causses.
Ce schéma régional Climat-Air-Énergie est issu de l'application du Grenelle 2 de l'environnement. Ce Grenelle, donc, dans son application, a préconisé l'élaboration d'un schéma pour mettre de l'ordre et de la cohérence dans toutes les actions que prenaient toutes les collectivités un petit peu partout. Et ce schéma est élaboré avec l'État, donc le préfet de région et ses services, la région, le président de la région et ses services, des associations, et également dans les textes donc de syndicats des salariés. Donc ce schéma essaie de donner une cohérence à toutes les actions autour des énergies renouvelables qui sont prises séparément pour éviter l'anarchie qui s'était installée. Donc ce schéma, maintenant, en ce qui concerne l'éolien, a pour objectif l'implantation de 800 éoliennes en Midi-Pyrénées, projet ambitieux mais probable. Et nous, l'Aveyron, qui pour le moment a 60% des installations en place, nous sommes donc le département qui sera le plus touché par ces 800 éoliennes. Nous en aurons une grande partie chez nous.
Combien à peu près ?
Combien à peu près ? Écoutez, 600 ne serait pas surprenant. Nous allons avoir le transformateur de Saint-Victor, ça aussi c'est très inquiétant, qui pourrait accepter 2100 mégawatts. 2100 mégawatts, ça pourrait aller jusqu'à 900 éoliennes. Et on sait très bien qu'avec un transformateur très cher, très onéreux, il sera rempli. On ne va pas laisser le transformateur vide et le construire pour rien. Donc ça nous menace très fort. D'ailleurs, je vais vous dire, les 800 éoliennes sont le projet et jusqu'en 2020. Mais au-delà, ça va continuer, crescendo. Et les projets sont effectivement effarants. Si les gens réfléchissent, 800 éoliennes dans des parcs naturels, qu'est-ce qu'il reste de naturel ? Il y a l'Aveyron, qui a donc 60% de la puissance raccordée. Il y a le Tarn, qui a 30% de la puissance raccordée. Et il y a la Haute-Garonne, 10%.
Les associations ont à plusieurs reprises demandé à être consultées sur ce projet, mais elles n'ont pas été entendues. Et si le public a été consulté, les associations dénoncent une parodie de démocratie compte tenu de la complexité du dossier.
Les citoyens sont consultés en ce moment, mais vous voyez, tout ça est très superficiel. Comment voulez-vous que les gens aillent dans les mairies passer la journée à lire un rapport de 98 pages, plus des annexes 111 pages, dans des vocabulaires assez hermétiques? Comment voulez-vous qu'il y ait une vraie participation? Donc tout ça est très superficiel, c'est pour marquer participation. Les associations ont fait des efforts dans le courant de l'année dernière. Nous sommes allés à plusieurs reprises ensemble voir le préfet de région qui nous avait promis de nous faire participer aux réflexions sur le schéma. Nous sommes allés voir l'adjointe, Madame de Dieu Castille, de Monsieur Malvy. Monsieur Malvy, si vous vous souvenez, dans les journaux, à un certain moment, il avait été dit, effectivement, qu'il avait dit « pas d'éoliennes dans les parcs naturels régionaux ». Bon, et maintenant, on n'entend plus personne et nous avons le maximum d'éoliennes. C'est une colère qui monte parce que il est évident que l'on se moque de nous.
Les opposants à ce projet d'implantation d'éoliennes géantes justifient leur position par, d'une part, le peu d'efficacité des éoliennes en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autre part, par les nuisances en tout genre occasionnées par ces éoliennes.
Il faut arrêter tout ça. Il est nécessaire aussi de préserver la biodiversité, de préserver les paysages qui ont une valeur touristique et économique, de préserver la qualité de vie des gens. Il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire de les sacrifier, puisque franchement, quand on lit aussi dans l'écologiste par exemple, on répète toujours cette citation de Monsieur Jacob, c'est un intérêt marginal. Donc si l'on fait tout cela pour des machines qui ont un intérêt marginal, c'est-à-dire qui ne vont rien soulager au point de vue gaz à effet de serre, on se moque de nous, et malheureusement, si la population ne réagit pas, je pense que cette fois, elle aura tout en ce qui concerne les nuisances. Et plus il y aura de nuisances, plus il y en aura encore, parce qu'on choisira les régions déjà anthropisées pour en mettre davantage. Et pour la suite, ben, une population qui ne dit rien continuera jusqu'au bout à avoir toutes les nuisances de tout. Ça n'apportera rien à personne. Ça fera perdre des emplois dans les diverses activités liées au tourisme. Ça empêchera des gens de venir ici. Personne ne va dans une région où il y a 800 éoliennes. C'est fou. On n'a pas envie de voir ça clignoter à longueur de jour et de nuit. Voilà. nous sommes dans une situation de dernière limite.
Le 27 janvier est le dernier jour avant l'acceptation par le préfet de région du schéma régional climat air énergie de Midi-Pyrénées. La manifestation organisée par le collectif 40 associations défense de l'environnement de Midi-Pyrénées se tiendra donc ce même jour devant la préfecture de région à Toulouse. Anne-Marie Citon.
Cette manifestation, elle a vraiment un intérêt, elle mérite vraiment que les gens qui aiment ce département bougent et se montrent parce que on va tout mettre, ce sera tout ici, et il faudra le supporter à vie. Pourquoi à vie? On vous dit 15 ans les contrats, mais à vie parce que il y aura un transformateur et que le transformateur, on ne l'enlèvera pas dans 15 ans. Donc le transformateur, il est là pour 100 ans et plus, et les éoliennes que l'on met ici, on vous trompe, seront là pour 100 ans et plus. Si je voulais conclure, en fait, je dirais que est-ce que nous allons laisser faire? Nous avons la chance d'avoir la possibilité de nous faire entendre le 27 à Toulouse. Il faut le faire massivement parce qu'après, ce sera trop tard. Nous n'arrêtons pas de dire « il faut réagir ». Eh bien maintenant, c'est le dernier moment.
C'est l'identité même de l'Aveyron qui est en danger, explique Anne-Marie Citon. La manifestation contre le projet d'implantation de 800 éoliennes industrielles en Midi-Pyrénées aura lieu le 27 janvier à partir de 13h devant la préfecture de région.
Manu, c'est toi qui présentais.
Moi, voilà, vos réactions par rapport à ce genre de choses, ça fait deux fois qu'on parle d'éolien, ça fait deux fois qu'on nous dit que l'éolien, n'en veut pas chez nous, qu'est-ce qu'on fait ?
Jean-Pierre ?
Alors, j'ai l'impression que ça soulève plusieurs problèmes à l'intérieur d'un seul, qui est celui du choix énergétique pour 2012 et puis les années suivantes. Alors, certains aussi disent, Anne-Marie Citon évidemment ne les cite pas, mais même dans des revues écologiques, bon, il vaut mieux, c'est un moindre mal, de l'éolien qu'une centrale nucléaire, on en conviendra, ou qu'un barrage, par exemple, ce qui dans nos régions nous guette aussi. En tout cas, pendant un certain temps, en sortie de guerre, on a dû faire des barrages.
Bon. C'est ça qui m'a gêné un petit peu dans son intervention, hein. C'est qu'à aucun moment elle parlait du nucléaire, de l'alternative au nucléaire.
Voilà.
Donc bon.
Toute une vie, pas tout à fait. C'est vrai qu'on peut démonter quand même une éolienne beaucoup plus facilement qu'une centrale quelconque ou qu'un barrage, c'est évident. Donc, du point de vue de l'empreinte sur le paysage, de façon complètement pérenne, peut-être pas. Bon, qu'il y ait des nuisances, ça, il ne faut absolument pas les sous-estimer. Je pense que de ce côté-là et de ce point de vue-là, les pouvoirs publics les sous-estiment et n'écoutent pas surtout la population qui vit à proximité de ces éoliennes. Ça, c'est une chose. Alors, il y a aussi ces enquêtes publiques. Alors là, ça soulève évidemment la sempiternelle question, mais ces enquêtes publiques, pis-aller, est-ce que ce sont des cache-misères de la démocratie ? Oui, très certainement. C'est pour dire aux gens, attention, voilà, vous pouvez quand même vous être consulté, vous pouvez aller voir. Oui, c'est vrai que c'est impossible. Pour des non-initiés, Manu, impossible d'aller lire tous ces comptes rendus et toutes ces enquêtes.
Les enquêtes d'utilité publique, il y en a depuis toujours.
Bien sûr.
Avant, les gens n'étaient même pas informés que ça existait. Maintenant, on sait que ça existe et les gens n'y vont pas. Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, non, mais les gens n'y vont pas parce qu'on sait pertinemment, on a le sentiment, en tous les cas, que les choses sont jouées d'avance. Hein.
D'accord.
Que, d'ores et déjà, le commissaire enquêteur sait ce qu'il va conclure et que, quoi qu'il arrive et quoi que vous fassiez, même si quelques experts passent de temps en temps, ce qui arrive et ce qui embête d'ailleurs beaucoup ceux qui font les permanences parce qu'ils posent des questions, etc. Les gens ne sont pas toujours à même d'y répondre immédiatement. Eh bien, quoi qu'il arrive, on a le sentiment, et le public dans beaucoup d'autres domaines a le sentiment qu'il n'y a qu'une poignée qui décide. Et là, on revient à une chose fondamentale dans notre démocratie. Oui, mais quid du peuple dans tout ça ? C'est-à-dire qu'on donne les clés de la maison pendant X temps à ceux qui doivent nous représenter, soi-disant, mais ceux qui nous représentent oublient qu'ils ont été élus par le peuple et qu'il faut revenir à lui à chaque fois qu'il y a un problème comme celui-là qui est crucial et qui va impacter, ça c'est vrai, on ne peut pas le sous-estimer, 800 éoliennes sur l'ensemble de Midi-Pyrénées, mais 600 dans le département. Déjà, pourquoi que l'Aveyron ? Pourquoi ne répartit-on pas la charge, hein,
C'est considéré comme un département à fort gisement éolien.
Pourquoi pas ? Certes.
Selon des études, tu sais, de vent,
sûr,
etc.
Bien sûr, il y a d'autres départements, je suppose, aussi. Il y a 8 départements. Hein. On est la région la plus étendue, la plus large. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu
moins
des
habité.
La moins habitée aussi. Est-ce qu'il n'y a pas eu des tractations en sous-main ? Là aussi, les gens se posent des questions, malheureusement, sur ce genre de choses, puisque, encore tout dernièrement, un conseil municipal, sans vraiment que la population ne soit réellement au courant, a décidé à Rignac, pour ne pas la citer, puisque c'est la dernière affaire en date éolienne, au moment où nous enregistrons, hein, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui le 12 janvier, je le précise, eh bien, on vient d'apprendre qu'il y allait y avoir un parc, parce que, tout simplement, il y a quelques personnes qui ont été élues, hein, bon, très bien, parfait, mais enfin, ils n'en ont pas informé la population, ils ont décidé qu'une entreprise canadienne allait pouvoir faire des études pour installer à Anglars-Saint-Félix-Roussennac ce parc. Bon, alors voilà, on a l'impression qu'on est toujours doublé, donc c'est pour ça que les gens, je pense, ne bougent pas suffisamment. Sur l'aspect purement environnemental, oui, ça gâche le paysage, on ne va pas dire le contraire. Bah, c'est sûr qu'une éolienne en face
de 30-60... Il y a des gens qui trouvent ça majestueux, joli. Bon, donc ça, c'est un peu subjectif.
Hein. Oui, il y a même des photographes qui s'en sont fait la spécialité. On voit fleurir. Oui, j'ai vu des expos maintenant à base de grandes éoliennes, etc.
Il y a pire.
Certes, mais on pourrait trouver d'autres moyens, je pense, notamment pour produire de l'électricité par l'éolien, mais du petit éolien. Parce que j'ai bien retenu, et c'est là le problème, que ce sont des éoliennes géantes.
Mmh. Oui, mais géantes. Même les groupes éoliennes-là ne fourniront pas suffisamment, ne fourniront pas l'électricité. Ces 800 éoliennes plus ce qui existe ne fourniront pas l'électricité consommée sur l'ensemble de la région Midi-Pyrénées.
Ouais. Non, mais le meilleur moyen, c'est déjà de ne pas la consommer. Bon, voilà. Moi, je vais dire la même chose que ce que j'ai dit à la dernière émission lorsqu'on a parlé du problème à Saint-Victor-et-Melvieux, donc, où il y a eu aussi une enquête d'utilité publique au mois de décembre. C'est déjà, premièrement, et ça me gêne aussi qu'Anne-Marie Citon, elle n'en parle pas du tout, parce que bon, elle présente la manifestation et il n'a pas été question dans son intervention de tout ce qui est économie d'énergie. Moi, je ne suis pas contre les éoliennes à condition qu'elles soient utiles, c'est-à-dire qu'elles servent à produire l'électricité dont on a vraiment besoin et pas alimenter.
C'est assez compliqué, c'est pas le système qui permet de stocker, on ne peut pas stocker. Nous, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir un peu stocker dans l'électricité, parce que tu ne l'as pas.
Mais je veux dire, toute l'électricité qui est gaspillée, il y a un gaspillage quand même d'énergie dans nos sociétés, où on surconsomme de tout, y compris de l'énergie, de l'électricité, du chauffage, enfin, tout ce qu'on veut. Tant qu'il n'y a pas cette réflexion-là, moi, c'est vrai que je m'opposerai au projet éolien, au gros projet éolien. En plus, tant qu'il n'y aura pas de consultation vraiment en amont de la population, même que ça vienne des gens, peut-être, je peux pas être pour, mais j'ai pas non plus envie d'être contre de la même façon que cette dame, voilà. Ça me gêne aussi, parce que ça fait, oui, il y a toujours des gens qui sont contre. Et puis à force, ben, je pense aussi que les politiques, ils se disent, de toute façon, il y aura toujours des râleurs, allez, on y va, on fonce et on les écoute pas. Moi, ça me gêne un petit peu, quoi, cette façon d'être contre aussi. Je suis pas sur les mêmes arguments qu'elle.
Ce qui me gêne à la façon d'être contre, je dis pas que ce soit le principe de cette structure, mais c'est aussi les gens qui préfèrent, tu mets les éoliennes chez le voisin, mais pas chez moi.
Aussi.
Oui, je préfère quand même avoir une éolienne devant chez moi que la même micropile atomique de même capacité en face de chez moi.
Voilà, non mais c'est ça après. C'est vraiment aussi tout sauf le nucléaire quelque part. Voilà.
Enfin, les gens ne sont pas conscients des dégâts que ça peut faire.
Je préfère encore des éoliennes industrielles à une centrale nucléaire. Moi, le jour où on dit la France arrête le programme nucléaire pour mettre des grosses éoliennes industrielles, si dans un premier temps la seule alternative c'est ça, je me dirais pourquoi pas.
Peut démanteler, même si le socle en béton il va rester là, mais une éolienne on la démantèle. Une centrale, on ne sait pas faire. Puisqu'il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas, la vie des déchets nucléaires, ça on ne peut pas on peut pas raccourcir la vie d'un déchet nucléaire et on ne sait pas quoi en foutre, à part les foutre dans un train et les promener de ça et là.
Et il y a une hiérarchie dans les nuisances. Il faut le reconnaître aussi, même si ça reste une nuisance, c'est la moins impactante à long terme sur aussi la santé. C'est sûr, c'est gênant. J'étais à côté des grosses éoliennes, on va à Via Rouge, hein, on peut s'arrêter au bord de la route si vous n'avez jamais testé, restez quelques instants. Oui, c'est vrai, quand elles marchent très fort, on les entend, c'est sûr. Mais est-ce qu'on préfère effectivement cacher une centrale nucléaire? C'est sûr que c'est sans odeur, sans visibilité quasiment. Enfin, pas pour toutes. Hein. On pourrait imaginer aujourd'hui, il y a eu des études qu'on enterre hein, certaines usines. Alors, est-ce qu'on préfère ça? Est-ce qu'on préfère se masquer? Bon, voilà. Et puis, je suis d'accord avec toi, Catherine, par rapport aux économies, oui, il faut tous qu'on s'y mette. De toute façon, il faut revoir nos modes de consommation et nos modes de vie et ainsi faire baisser la production d'énergie globalement.
Et se pencher sur aussi par quoi, l'éolien, c'est peu efficace, c'est nuisible, enfin, ça crée des nuisances. Par quoi on peut le remplacer d'aussi efficace, d'aussi intéressant? Et on ne voit pas, là, derrière, des gens bouger. Des études, enfin, ou de l'argent placé dans des études pour pouvoir, je sais pas, développer le photovoltaïque ou la biomasse, ou j'en sais rien. J'ai pas l'impression qu'on se bouge de ce côté-là.
Enfin, moi, je trouve qu'il faut faire très attention quand même en ce moment où le débat sur le nucléaire en France il est aigu, qu'on pourrait espérer assister à un basculement. Je trouve que les antinucléaires, on devrait faire très attention quand même au discours qu'on peut avoir, parce que c'est mal compris aussi si on est... si on devient anti-éolien de base, je ne suis pas sûre que ce soit très bien compris par les gens. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des réflexions comme ça, c'est pour ça que je le dis. Bon, des gens qui vont dire, mais il faudrait savoir, vous n'êtes pas pour le nucléaire et vous n'êtes pas pour les éoliennes non plus, qu'est-ce que vous voulez ? Il faut quand même faire attention à ce qu'on dit, et puis en se positionnant, enfin, bon, je ne vais pas prôner la radicalité, hein, du coup. C'est sûr qu'on pourrait être très radical et dire pas de ça, ni de ça. Mais il y a un moment, il faut.
Mais tu l'as dit, il faut consommer moins, c'est, voilà, et essayer de se soucier un peu de l'avenir de la planète, et pas que de notre précaré, quoi.
Ok, bah, je vous propose. Nico avait un morceau à nous proposer, là, pour faire une petite pause dans cette émission, dans ce méninge à trois. On essaye de se remuer les méninges.
Un morceau de Erwan, le chanteur de Java, qui a sorti un troisième album solo qui s'appelle Peau Rouge. Et le morceau qu'on va écouter est le morceau éponyme, donc Peau Rouge. Parce que j'ai l'impression qu'on est des Indiens au milieu de ces cow-boys. C'était Erwan avec Peau Rouge. J'ai envie de dire, ça se soulage.
Voleur, tu m'as volé ma transition. Vous écoutez donc Méninge à 3, l'émission des Peaux Rouges de Radio Centrafrique.
Oui. Et j'adore. Et ben c'est très bien parce que ça tombe bien. J'ai beaucoup de respect pour les Indiens. Mais d'Amérique du Nord, hein, je précise.
Et Radio Larzac. Et on va enfin pouvoir soulager notre cher Jean-Pierre Alexandre de Rodez. Car savez-vous, chers auditeurs, qu'un musée soulage se prépare à Rodez, auditeurs de Radio Saint-Af et de Mio, Radio Larzac, vous ne le savez peut-être pas. Mais...
Ouais, ben, il vaudrait mieux que vous le sachiez, parce qu'en même temps d'être auditeur, à la fois, vous payez aussi des impôts, enfin, normalement.
Ah.
Et si vous écoutez ces radios, c'est que en fait, vous habitez en Aveyron. Donc normalement, c'est le projet structurant, ils appellent ça aujourd'hui, vous savez, c'est un joli mot, structurant culturellement pour le département de l'Aveyron. C'est-à-dire que c'est un projet qui doit amener... par wagon entier. Alors, j'ose espérer que ces wagons seront climatisés, pas trop pour les économies d'énergie, mais des tas de touristes du monde entier, voire même les faire planer au-dessus de l'Aveyron. Ils arriveront par l'aéroport de Rodez. Car c'est bien d'un musée monumental dont nous allons parler. Mais auparavant, j'aimerais quand même, si vous le permettez, faire un petit test, hein, puisque vous êtes là, il y a Nico, il y a Manu, il y a Catherine, Pierre Soulages, vous connaissez.
Donc, un petit peu.
Pierre Soulages.
De elle, nom.
Alors, vous ne la voyez pas, mais elle est en noir. Ça ferait plaisir à Pierre, hein, comme ils disent maintenant à Rodez. Tout le monde l'appelle Pierre, ça fait bien. Dites Pierre. Ici, en Aveyron, ce sera beaucoup mieux. Pierre a posé la première pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon musée. Voilà, donc, Catherine a dit, Pierre, c'est qui?
Un petit
Soulages
peu, mais c'est vrai que je ne suis pas de la région.
Oui,
c'est
mais
un,
alors,
peintre,
voilà,
un peintre. Un peintre, peut-être plasticien, je ne sais pas.
D'accord. Manu, une petite idée sur qui est Pierre Soulages? Mieux a vu des œuvres de Pierre Soulages.
Ah oui, oui.
Oui, j'en ai vu quand
j'ai
même.
J'ai fait l'école des Beaux-Arts. Donc Soulages, je le connais depuis plus de on va dire 30 ans, 35 ans. Aïe, aïe, aïe.
Nico.
Non, oui, Soulages, oui, oui. Je ne savais pas qu'un jour, il finirait par faire un musée à Rodez, parce que ça, franchement, il faut le faire.
Bon, alors vous, on va interroger, voilà, parce qu'il fait partie aussi de cette émission, c'est le réalisateur, hein.
Soulages, moi, il me semble savoir qu'il a fait des vitraux à conques et qu'il fait des sculptures, des trucs noirs, noirâtres. Après, ouais, pas plus, non.
Ah, Nico, il a presque juste, il fait pas de sculpture, hein. Mais bon, c'est pas grave, il fait juste de la peinture.
On devrait faire un micro-trottoir.
En revanche, voilà,
mais il n'y a pas beaucoup de monde qui passe devant là.
Malheureusement. En revanche, il a bien fait les vitraux, effectivement, de conques qui ont été aussi en leur temps à la une à cause d'une polémique que vous connaissez. Mais on va pas revenir là-dessus parce que c'est pas l'objet de la discussion.
Alors, quel est ton problème?
Voilà, le problème, c'est que ce musée, donc, il n'y a pas réellement de problème, vous allez voir, si ce n'est d'argent.
Ah, mais l'argent, mais partout, il y a toujours eu des problèmes d'argent. Oui.
Alors, Manu se demandait, mais pourquoi un musée, on va revenir au commencement, pourquoi un musée Pierre Soulages à Rodez? Alors, vous devriez
pourquoi
le savoir,
pourquoi
chers auditeurs de notre radio.
Il est né sous le
radio
musée, c'est ça?
Non, ben, il est né à Rodez déjà. D'abord, il est rue Ténois. Ensuite, pourquoi ce musée à Rodez, et de quand est-ce que cela date? Eh bien, ça date déjà du temps de Monsieur Sancy, Marc Sancy, le maire de Rodez, qui, ne voulant pas quitter la mairie après 30 ans de bons et loyaux services et réélection de réélection en réélection, n'avait pas bâti sa très grande bibliothèque ou sa pyramide du Louvre, s'était entiché. On peut le dire comme ça, hein, c'est entiché de Pierre Soulages, en l'exhumant un petit peu, parce qu'il faut dire que Pierre Soulages avait oublié pendant plus de 50 ans sa ville natale de Rodez. Or, pourquoi pas, hein, après tout, il a fait le tour du monde, il a fait sa fortune ailleurs qu'à Rodez, on le comprend, parce que s'il avait valu qu'il vende tous ses tableaux à Rodez...
Tu comprends mon interrogation tout à l'heure.
Voilà, tout à fait. Mais bâton de maréchal, pour bâton de maréchal, tiens, pourquoi pas, un musée Soulages. Donc Pierre, bonjour, oui, tu nous donnes quelques tableaux. Oui, pourquoi pas, je vais faire une donation. Bon,
combien... J'aurais voulu voir la tronche de Monsieur Sancy quand il a vu les premières toiles de Monsieur Soulages.
Ah, on n'y était pas. Mais est-ce que c'était dans le bon sens,
voilà. Allez-y, décrivez-nous quand même. Pour les gens qui nous écoutent.
Attention, dans cette intervention, je ne vais pas, que ça soit clair, pour tout le monde, pour tous les amateurs d'art surtout, je ne suis pas là pour démolir l'œuvre de Soulages. Ni
mais tu peux
l'artiste
expliquer, peintre. Tu peux lire au moins quand tu te...
Oui, je demande à un peu moqueur quand même.
Décris-nous une toile, si tu ne le fais pas,
je peux
le faire.
Pas trop savoir dans quel sens elle se regardait, donc j'ai cru comprendre.
C'est une recherche, en tout cas je peux parler de la recherche du noir, de l'outre-noir, comme l'appelle Pierre Soulages, donc il cherche le noir le plus lumineux qui puisse être, qui pour lui, le noir, est une couleur, hein, contrairement à peut-être
alors que le noir est une absence de couleur, ou bon. Alors une absorption de toute...
Bon. Voilà, donc peut-être très inspiré par Malevitch, qui lui préférait donc le bleu, comme chacun.
Outre-mer.
Voilà.
Bref, donc, l'outre-bleu.
On va pas y arriver.
Si, c'est pas parce que tu fais des bruitages...
Alors, vous voyez, vous avez mis sur le tapis l'aspect que ceux qui attaquent les détracteurs remettent à chaque fois. Ah, donc vous remettez en cause la pertinence, la reconnaissance artistique de Pierre Soulages.
Du tout.
Son travail.
Du
non,
tout.
C'est pas le propos.
Non.
C'est pas mon propos,
oui.
D'accord. Même si j'ai un avis sur sa peinture... même si ce noir peut laisser certains très dubitatifs. Non, la place qu'il a aujourd'hui dans l'histoire de l'art dans le monde, elle n'est pas discutable malheureusement, parce que vous savez que l'histoire de l'art dans le monde, ce sont les cotations de chez Sotheby's. Hein. Et il se trouve que Pierre Soulages fait partie des peintres vivants actuels qui vendent le plus cher leur toile. Une toile de Soulages, tiens, un petit sondage, combien ? Combien sur la table pour une toile en moyenne,
quelques
c'est une moyenne.
Milliers d'euros.
Milliers, c'est gentil.
Quelques Manu. Centaines de milliers ou des millions. Allez, voilà, des millions
voilà.
D'euros. Allez.
Soyons fous, c'est c'est un million d'euros.
Un million d'euros.
Voilà, en moyenne, une toile.
En vendant une de ces toiles, il a pu payer au moins la moitié ou le quart du musée.
Non, il faudrait qu'il en vende, donc ça c'est bien. Merci de me tendre la perche, puisqu'on en arrive aux chiffres. C'est là que nous allons discuter. C'est sur les finances publiques, puisque M. Sancy n'avait pas l'argent nécessaire. C'est-à-dire, à l'époque, on est parti sur.
Non, oui. Attends.
Catherine n'en veut plus. Je ne sais pas pourquoi. Cette émission n'est pas une émission humoristique, je le signale.
Monsieur Sancy, si on en...
Alors, Catherine.
Monsieur Sancy, elle en était à Monsieur
on
Sancy.
On en était à Monsieur Sancy.
Oui, quand
voilà.
Tu veux.
Monsieur Sancy rencontre Pierre Soulages et lui dit, écoutez, je pense que ce serait bien que vous fassiez, qu'on fasse un musée ensemble à Rodez, au Foirail. Il l'a accepté, comme vous en doutez, évidemment. Mais ce qu'il n'avait pas calculé Marc Sancy, qui se faisait fort, donc, de faire passer ce projet au sein de l'équipe municipale et surtout de l'agglomération aussi du Grand Rodez, puisque vous savez que Rodez fait partie d'une communauté d'agglomération, c'est qu'il n'allait pas être réélu. Et donc le bébé allait être transmis par la suite. Et là, on est, disons, en 2006. Et à ce moment-là, ceux qui avaient voté contre, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y avait une opposition municipale, qui est l'actuelle majorité, si vous me suivez bien.
De M. Técèdre.
Tout à fait. Et à l'époque, il se trouve que M. Técèdre lui-même avait, ne s'était... Il y en a qui se sont beaucoup abstenus, disant, bon, on ne sait jamais comment... Mais il se trouve que Christian Técèdre avait voté contre. Voilà.
Et il se retrouve à financer ce projet
oui.
Qu'il ne voulait pas.
Et surtout à le défendre. Dans ces propositions, dans ce
proposition
qui s'est présenté,
de loi de pouvoir arrêter le projet de Nantes quand tu peux pas.
Est-ce que ça faisait partie de son projet électoral d'arrêter
Eh ben justement non. Et c'est ça qui a étonné tout le monde, puisque en quelque sorte il a révisé son idée de du
musée. Tu en étais au nombre de toiles pour pouvoir financer son musée là.
Oui, alors le nombre de toiles, donc c'est combien? 25.
25 millions voilà. D'euros pour pouvoir son musée.
Mais il faut savoir qu'au début des années 2005, on était à 10 millions d'euros. Hein. C'était normalement 10 millions. Aujourd'hui, on est déjà à 25 millions et les fondations ne sont même pas terminées.
Non, attends, tu parles du
musée.
Quoi ?
Du budget du musée.
Oui, oui, oui.
On en est à 25 millions, fondation
oui, oui.
Non finie.
Oui, oui, fondation non finie.
Non, mais vous rigolez, qu'est-ce que vous faites à Rodez là
non, voilà. Non, ce qu'on fait, c'est que vous allez payer et les générations futures vont évidemment
non,
payer.
Non, mais attends,
alors.
Qu'est-ce qu'ils font là avec 25 millions d'euros s'ils n'ont pas fait encore la première pierre.
Alors, la première pierre a été posée, justement.
Donc, fondation finie.
Voilà, tout à fait. C'était le 20 octobre 2010. Et c'est le 23, un petit peu avant, un an avant, le 23 juin 2009, que le Conseil de communauté du Grand Rodez, après d'âpres négociations et discussions, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une opposition très grande, à la fois dans la population, ruthénoise ou grande ruthénoise, appelez-la comme vous voulez, et parmi les élus d'opposition actuels, donc de l'ancienne majorité à l'époque où c'est Marc Sancy qui avait présenté ce projet, qui était contre. Bizarrement d'ailleurs, il faut le savoir. C'est-à-dire que
ouais,
tout le monde, si vous me suivez bien, tout le monde a retourné un petit peu sa veste entre temps.
Juste soyons précis, Jean-Pierre, je rappelle Radio Temps Rodez.
C'est peut-être pas la peine.
Pourquoi ?
Si, moi c'est la peine, chers alors. Auditeurs, il appartient à Radio Temps Rodez.
Merci.
Soyons précis, donc c'est ce budget que tu nous annonces.
25 millions d'euros.
C'est pas le projet qui. De budget, c'est déjà là où on en est
non,
au moment des fondations
c'est le, non, c'est non, le mais projet, c'est... mais ça a beaucoup évolué
voilà,
à cause du coût
d'accord.
De la construction. Vous savez, l'indice de construction, ça doit être lié à ça. Non, on est parti, juste, je disais qu'en moins de 5 ans, on était parti de 10 millions, projet initial, et aujourd'hui, on est à 25 millions. Mais ça ne veut pas dire qu'on va payer 25 millions, ça veut dire qu'on va peut-être payer 25, 27, 28, voilà.
50.
Ça peut continuer comme ça. Alors, ça, à la limite, bon, le budget est a priori presque bouclé. Donc 50%, il faut le savoir, va être supporté, pensez à nous, aux habitants du Grand Rodez.
Pas de problème, on va penser à vous.
À l'agglomération. Mais le reste sera quand même, va venir de l'argent public, toujours évidemment, puisque c'est quand même de l'argent public, donc de la région, environ 4 millions d'euros. L'État a dit que si la région mettait 4 millions d'euros, il mettrait autant. Grand seigneur pour quand même un grand projet structurant qui doit aussi être le phare de la culture en France, de la France même à l'étranger, parce qu'il n'y a pas de musée Soulages actuellement en France. Pierre Soulages a différents lieux d'exposition, dont le musée Fabre d'ailleurs à Montpellier. C'est là, je crois, qu'il y a le plus grand nombre en France de toiles de Pierre Soulages. Voilà. Alors, normalement, il va prendre, je vais finir sur les détails, il devrait ouvrir ses portes à l'été 2013. Mais bon, je vous passe les péripéties en ce qui concerne la construction au Foirail. Il y a eu quelques petits foirages, si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots.
Forage, on dit non, forage.
Il y a eu des forages et des foirages aussi.
Des foirails aussi.
Alors, apparemment, tout a été rattrapé, puisque tout dernièrement, c'était le 9 décembre 2011, Pierre Soulages est venu visiter, j'aime beaucoup là, l'adjectif possessif « son chantier ». C'est ainsi que titre maintenant est désormais les Pravda locales, c'est-à-dire, vous savez, les journaux de la presse écrite qui parlent du musée, son musée, comme si c'était Pierre Soulages qui le payait, son chantier, comme si c'était lui qui le construisait.
Il n'en paie pas un petit bout ?
Alors,
c'est
pas du
son
tout.
Musée.
Non, c'est son musée, mais il n'en paie pas un bout.
Alors, attends, il a déjà donné des toiles.
La première réflexion, bon, a priori, on se dit, il donne des toiles, oui, ça peut être intéressant. Bon, alors, ce ne sont pas que des toiles, il faut rentrer dans les détails. Une donation de 500 œuvres. 500 œuvres, mais ce ne sont pas que des toiles, des fameux brous de noix. J'espère que vous en avez tous entendu parler. Des brous de noix, c'était au tout début de sa carrière qu'il faisait des essais sur le noir. Et ses travaux préparatoires, accrochez-vous bien, aux vitraux de l'abbatiale de Conques. Ah. Ce ne sont pas des toiles majeures. Voilà, pour tout dire, on ne va pas aller récupérer au musée d'art moderne de New York, à la London Tate Gallery de Londres, on ne va pas récupérer les toiles de Pierre Soulages qui sont les toiles emblématiques ou celles qui ont été exposées tout dernièrement.
C'était, il a donné ses cahiers de brouillon.
Au Pompidou. Alors, certains iront jusque-là, mais encore une fois, on ne va peut-être pas parler de la qualité, mais n'empêche que, il pouvait donner éventuellement. Les mauvaises langues disent qu'il pouvait se débarrasser de ce qu'il avait dans son garage. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, c'est pas très, très sympathique, et les exposer à l'air libre. Mais non, on n'ira pas jusque-là, d'accord ? On va être respectueux du maître, puisque chacun le sait, il faut appeler Pierre Soulages maître. C'est ainsi que nous avons vu, donc, et à chaque fois que Pierre Soulages vient à Rodez, une cohorte de médias et autres élus, et pas que des élus du département d'ailleurs, il y avait beaucoup de monde. Ça doit coûter cher, ce genre de déplacement. Bref.
Mais alors, à quoi il va servir ce musée ? Ça va être un musée d'art contemporain, j'imagine, ou...
C'est le maître des brous de noix.
Ce musée est avant tout fait pour découvrir toute cette œuvre de Pierre Soulages, cet immense travail autour du noir, et va très certainement attirer tous les happy few dans le monde, qui sont donc peut-être 500, à vraiment vouloir venir voir le musée Soulages. Non, là, je suis encore aussi mauvaise langue.
Aussi noir.
Voilà. Bon, pour le reste... Évidemment, on nous annonce des expositions temporaires qui seront d'un niveau international, évidemment, pour faire bonne mesure. Donc là, il faudra rajouter au pot...
500 000 euros à chaque exposition.
Oui, à peu près, environ. Mmh. Et ensuite, il faut rajouter aussi, ensuite, après ces dépenses somptuaires, il faut bien le dire, parce que là, on est... Je sais pas si vous le savez, on est en crise en ce moment. C'est pas nouveau, d'ailleurs. Mais pas pour le musée Soulages. Donc on est aujourd'hui à... Autour de 2 millions, personne n'est vraiment d'accord, mais 2 millions, le coût de fonctionnement chaque année du musée, qui sera bien sûr entièrement supporté là par qui ? Par l'agglomération ruthénoise. Bon, alors ce qui fait
à hauteur de 50%.
Oui, alors à hauteur de 50%, c'est vrai, mais il y en a une petite partie qui va être effectivement de la région. Bon, mais tout ça n'est pas ficelé en fait, en réalité. Donc on sent bien le boulet, c'est le cas de le dire, venir pour cette génération, pour les autres et pour les suivantes si on veut maintenir en fonctionnement.
Et aux prochaines élections, M. Tessène, on va se faire...
Je ne sais pas.
Laminer et du coup, ils vont récupérer un musée...
Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Moi, je ne suis pas Madame Irma pour les prochaines élections. Mais il n'empêche que là, d'abord, on notera, mais ça, ce n'est pas nouveau, l'incurie de certains politiques qui changent. Alors,
je vais revenir à la métaphore d'avant, qui change d'avis comme le vent change de sens, hein, c'est un petit peu des girouettes. Et puis ensuite, on aurait aimé également, comme les éoliennes, et ça c'est une demande d'une part de la population, et puis aussi Marc Sancy qui avait dit, écoutez, je ne veux pas non plus imposer ce gros, très gros projet à l'ensemble de la population, on va faire un référendum. Et bizarrement, c'est quand même un homme donc de l'UDF à l'époque, hein, qui est passé à l'UMP, je crois, après, enfin, je ne suis plus trop les étiquettes, hein, mais il était à droite, hein, et c'est donc un homme de gauche qui a dit non, on ne fera pas de référendum, c'est acté, c'est bon, on y va, alors que rien n'avait été signé, et qui pouvait très bien
revenir en arrière ou modifier
ce projet. Éventuellement, moi, encore une fois, je n'ai rien contre l'art, bien au contraire, c'est très important, oui, la culture. Mais on a deux musées, alors peut-être qu'un des deux musées pouvait accueillir une partie déjà de ses œuvres, de cette donation, mais il se trouve que Pierre Soulages, et là je ne rentrerai pas non plus dans les détails, mais Pierre Soulages avait dit, moi de toute façon, mes œuvres, celles que je vais donner, je ne les mettrai pas ailleurs que dans un musée qu'on me construira. Ça fait partie des desiderata de monsieur. Bon, là aussi c'est un petit peu fort que l'artiste impose alors qu'il ne... qui ne paye pas une partie. Bon, normalement, s'il vendait 25 de ses toiles, effectivement, comme il en a fait des centaines, il pourrait payer à lui tout seul. Alors, je ne sais pas, la mairie de Rodez pourrait faire un geste, hein, et donner, bien sûr, évidemment...
La peinture, quoi.
Non, mais il pourrait donner le terrain. Oui, voilà.
Jean-Pierre, tu as fait une interview à ce sujet ?
Alors, plusieurs. Alors, plusieurs. J'ai fait plusieurs interviews. Alors, d'abord, l'art, c'est-à-dire on va faire un musée, très bien, maintenant on ne peut plus reculer, on est en train de le construire. Tout ce que je viens de dire, c'est un peu peine perdue finalement, bon, peut-être aux prochaines élections, maintenant on ne va pas revenir en arrière. Les grues sont là, le chantier est parti. Alors est-ce que l'art contemporain peut être populaire, si populaire, comme on nous le vend aujourd'hui à travers l'œuvre de Soulages et de ce musée, au point de justifier un tel investissement d'argent public dans un département au budget modeste, qui est en baisse d'ailleurs, hein, vous l'avez remarqué. Alors, je vous propose d'écouter Benoît Decron sur ce sujet, conservateur du musée Soulages, puisqu'il y a déjà un conservateur qui a été nommé, ça fait déjà 2 ans.
Mais déjà payé et tout.
Tout à fait. Et Jean-Claude Leroux, président des Amis du musée, qui est artiste lui-même, il faut le savoir, artiste peintre, admirateur de Soulages. Donc, est-ce que l'art contemporain peut être populaire ?
Alors moi, déjà, je vais vous répondre de manière un petit peu normande. Je dirais que l'art, c'est pour tout le monde, déjà pour commencer, et l'art, c'est ce qui fait que la vie est plus agréable à vivre. Je paraphrase une phrase célèbre de Robert Filliou. Donc, nous, notre rôle... avec les Amis du musée, mais le musée également, c'est justement de mettre au plus grand nombre, à la portée du plus grand nombre, des choses qui, à première vue, sont compliquées, et d'expliquer comment c'est simple et comment on peut regarder avec son cœur et pas uniquement avec son intellect, voir les doutes qu'on peut avoir et surtout les a priori. Ça serait très long de parler de la place de Soulages, mais je dirais tout simplement que à chaque fois que j'accompagne Pierre dans un certain nombre de vernissages, j'ai jamais vu d'artistes qui, en France, attirent autant de gens parce que c'est quand même quelqu'un qui a quand même 70 ans de création derrière lui. Donc une histoire complète pour Soulages, Nicolas de Staël ou Poliakov, c'était hier. Donc c'est une chance inouïe d'avoir finalement cette palette et d'avoir cet ensemble important. Maintenant, via la culture, c'est quelque chose qu'il faut porter. C'est pas une caille rôtie qui tombe dans un plateau, ça c'est pas vrai. Il y a des règles, comme au foot, comme au golf.
Voilà. Jean-Claude Leroux. Je rajoutais simplement une chose. On a la chance, à Rodez, dans notre département, dans notre région, d'avoir, je dirais, le seul, même l'unique maintenant, témoin d'une très très grande période de l'histoire de l'art européenne et internationale, qui est natif de Rodez, grand âge, laisser passer ceci, ça me renvoie un peu à ces villes du 19e siècle qui refusaient, pourtant c'est technologique, qui refusaient le train. Et il y en a eu beaucoup. Ceci dit, l'histoire a montré et a démontré que ces villes qui refusaient le train à l'époque, elles sont rayées de la carte aujourd'hui. Voilà, même si le train, c'est un outil un peu dépassé.
Chacun appréciera donc les propos de Benoît Decron et de Jean-Claude Leroux, surtout par rapport au train, comparer un musée et la culture à une technologie de transport. Bon, Manu, il y a peut-être une réflexion là-dessus, ou Catherine, je ne sais pas.
Non, j'ai pas. Enfin, je suis. Moi, la culture, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Donc, du coup. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans ce genre de dispositif, c'est l'argent. C'est ces sommes colossales. Je ne comprends pas comment on arrive à avoir des sommes colossales, même si ce n'est pas forcément l'exemple de, d'autres structures comme Micropolis, Beaubourg, ou certains conseils régionaux qu'on voit. Bref, il y a des sommes... Tout le monde se rince. Quand il y a un gros projet comme ça, derrière, on se dit « Oh putain, là, il y a un gros contrat à faire, paf, pif. » Et c'est que des histoires d'argent qui circulent. Et j'avais dans les mains, là, je feuilletais le truc sur le recensement, et je me dis « On est en période de crise, comme tu l'as dit tout à l'heure, et on arrive à des budgets, des fois, colossaux, quoi. Et comment on fait ? On nous dit « Il va falloir serrer la vis, c'est tout, et on nous sort des budgets à 25 millions d'euros. Donc, c'est pas le dernier, on en arrivera à 50. Comment on fait ? D'où ? Mais je pense qu'ils ont une planche à imprimer, quoi. C'est pas possible. »
Catherine.
Moi, quand je te demandais tout à l'heure quel était le projet de ce musée ou de ce bâtiment... ce musée Soulages, c'était aussi pour savoir qu'est-ce qui était prévu. Est-ce qu'il est prévu de dépenser autant d'argent uniquement pour faire venir des artistes très prestigieux, des artistes contemporains très prestigieux qui effectivement ne vont pas attirer grand monde ? Moi c'est pareil, je ne suis pas contre l'art et je n'ai pas envie de faire l'anticulture primaire un peu populiste, démago, dire oui ça coûte de l'argent et ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça que je veux dire, hein. C'est bien sûr que ça sert l'art, mais bon, moi je ne suis quand même pas très favorable à tout ce qui est marché de l'art, hein. N'empêche, sans critiquer le travail de Soulages que je connais très peu, quand tu me dis le prix d'une toile, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et autant, ces toiles, elles valent quelque chose aujourd'hui. Donc, ce musée vaut quelque chose parce qu'il a, il est bien placé, bien coté en bourse artistique mondiale, on va dire. Mais peut-être que dans 10 ans, ça ne vaudra plus rien du tout. J'en sais rien. Donc, c'est déjà ça. C'est un peu bizarre, mais bon.
Le prestige, et puis, la spéculation.
La question aussi, bon, il y a le côté spéculation là, du marché de l'art. Bon, bizarre. Et la question que je me pose, c'est bon, il y a aussi des artistes locaux, des gens qui galèrent, qui essayent de faire des choses, qui ont bon, peut-être pas la reconnaissance de Pierre Soulages, qui ne vendent pas leurs toiles au même prix, mais on pourrait peut-être un peu plus partager. Peut-être que les toiles de Pierre Soulages pourraient être un peu moins chères.
Merci Catherine,
et puis,
me tend la perche.
Qu'on en donne un petit peu le plus pinceau, aux gens si qui dire. Sont ici.
Y aura-t-il des artistes locaux ?
Merci Manu
voilà,
de reprendre.
C'est ça que la question que je voulais te poser. Quel est le projet ? Si effectivement il y a des moments, des expos internationales qui font venir des choses qu'on ne voit pas habituellement ici, mais qu'en même temps aussi ce musée sert à faire... à valoriser les artistes locaux, à leur donner un petit peu de temps en temps aussi les moyens de travailler avec des super conditions de travail, parce que souvent il manque de conditions avec des locaux, accueillir des gens en résidence, etc. Pourquoi pas, là, ce serait sympa,
sommes-nous
ce serait
super. Sommes-nous naïfs. En tout cas, je vous propose, merci d'avoir donc enchaîné, c'est parfait, cette émission n'est pas préparée, on le signale au public.
Je finirais quand même par dire un peu ironiquement que, quand même, au regard de l'histoire, regardons le musée Soulages avec notre cœur et non pas avec notre intellect.
Oui, surtout pas avec le carnet de chèques. Hein, parce
mais
que
voilà,
sinon,
c'est
ça,
bon,
tomber,
c'est facile de dire ça aussi, quoi. Est-ce que M. Soulages vend ses
Alors, revenons, si vous voulez bien, donc, à cet aspect qui nous intéresse, nous. Nous sommes des radios, des médias, deux territoires, on défend le local, non pas pour le local, parce que bon, voilà, Pierre Soulages est d'ailleurs local, c'est ce que je faisais remarquer, toi te crois, avant d'être à New York, à Londres, il est avant tout de Rodez, donc c'est bien un artiste local. Mais alors, est-ce que ce mot artiste locaux, est-ce que cette expression a une place dans le futur musée ? Est-ce que ce mot a un sens aussi aujourd'hui ? Est-ce que artiste local, finalement, est-ce que vraiment ça veut dire quelque chose à l'heure d'Internet, à l'heure de l'explosion des réseaux ? Bon,
Un petit peu quand même, puisqu'un artiste, il habite toujours quelque part. Hein.
Je vous propose d'écouter d'abord les artistes locaux. Auront-ils une place ? C'était la question que tu posais, je crois que vous posiez tous les deux. Auront-ils une place pour leur expo ? Tout simplement, une petite place. Bon, quelque chose d'important. Je vous propose d'écouter la réponse de Benoît Decron et Jean-Claude Leroux.
Moi, je ne ferai pas de langue de bois. Ma réponse, elle est négative. Mais attention, nuancée par un certain nombre de choses. D'abord, si vous voulez, à chaque musée, la maison des artistes. Donc, moi, j'ai à cœur que, si vous voulez, le musée et les musées, parce que les musées seront rassemblés, donc il y aura aussi une politique autour des musées. Il ne faut pas réfléchir uniquement sur le navire amiral, mais il faut réfléchir sur la flottille complète, hein, donc avec les lieux de monstration et choses comme ça. Mais il est bien évident que le musée Soulages aura vocation aussi de part avec son personnel, avec des missions, avec des collaborations avec d'autres partenaires, d'encourager, je dirais, la création locale. Moi, personnellement, j'ai tendance à penser que les artistes, ce qui leur manque, c'est un petit peu parfois de... Il faudrait qu'ils soient plus proches les uns des autres. C'est-à-dire que les musées, par exemple en Allemagne et en Suisse, il y a ce qu'on appelle la Kunsthalle, qui est une salle dans laquelle les artistes, tous les ans, ça peut être parfois dans un musée, organisent leur propre exposition. Mais c'est eux qui l'organisent sous leur propre responsabilité, avec les moyens de la collectivité, de manière à ce que ce soit eux qui gèrent le commissariat. Voilà. Et donc, le musée, il a vocation à ça, mais au sein d'un ensemble. Par contre, vous dire qu'il y aura une exposition d'artistes locaux, d'abord, ça veut rien, enfin, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour faire les artistes locaux au sein du musée Soulages, je vous dis personnellement non. Et d'ailleurs, dans la donation de Pierre Soulages, c'est clairement expliqué. Ceci dit, Soulages, il se promène, il voit d'autres artistes, il connaît pas mal d'artistes, même ici localement, il n'y a pas de souci, si vous voulez.
Non, je dis ça parce que simplement.
Il peut y avoir un artiste local, entre guillemets, présenté dans le cadre d'une exposition collective au musée Soulages, mais ça sera une exposition du musée Soulages. Ça ne sera pas parce qu'on est local qu'on est exposé. Alors je sais que c'est très décevant, mais moi je dis ce que je pense.
Au niveau des artistes, alors on va dire régionaux, locaux ou autres, en ce qui concerne Rodez et le musée Soulages, ce qui est d'extraordinaire pour les artistes que je côtoie, bien entendu, c'est la dynamique que crée ce musée, que crée déjà ce musée, qui est une dynamique qui va aller grandissante. C'est peut-être même utopique, c'est une idée moi qui m'a effleuré il y a déjà des années et des années, mais on y arrivera peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, Rodez aura peut-être une école d'art, par exemple. C'est le genre de complémentarité qu'il peut y avoir. Je pense que ça pourrait très bien dans la foulée, mais je dis peut-être, hein, je sais pas, c'est simplement... Donc voilà, ça c'est de la dynamique. C'est de la dynamique, et grâce à cela, quand on a la chance d'avoir comme voisin un artiste comme Pierre Soulages, je crois que la priorité, c'est pas de s'en inspirer, enfin peut-être, on peut, éventuellement, il y en a qui pourraient peut-être s'en inspirer, mais c'est de se dire, j'ai un grand à côté de moi, et c'est très réconfortant pour un créateur. D'ailleurs, tous les lieux, tous les grands lieux culturels, il y a toujours autour tout un tas de satellites. Mais ce sont des satellites, ça ne veut pas dire dans la partie musée. Voilà, ça c'est clair.
Moi j'ai une expérience où j'étais avant au musée de l'Abbaye Sainte-Croix, au Sable d'Olonne, où je suis resté 14 ans avec les artistes locaux. Les artistes locaux, d'abord j'aime pas ce mot local, parce que je trouve que c'est comme la teinte locale, quand on a dit ça, ça fait petit, et ce sont en général de très bons artistes. Ce que je veux dire par là, c'est que le musée, en fait, c'est la maison des artistes, c'est-à-dire que c'est un endroit où ils peuvent trouver de l'aide, de la documentation, c'est une sorte de base arrière. Mais j'ai toujours eu à cœur, par exemple, même de participer physiquement, même de participer avec mon personnel, sans exposer ces gens-là au sein du musée, de leur organiser des expositions au sein de la commune à laquelle j'appartenais. Et je crois quand même que c'est aussi le souci des élus, tous les élus confondus, de trouver justement des lieux où il peut y avoir des expositions faites dans de bonnes conditions. Alors de bonnes conditions, ça veut dire un minimum, je dirais, de qualité de présentation, pourquoi pas une petite publication, maintenant un peu d'Internet, si vous voulez. Mais ça, c'est le rôle des élus de le faire. Et là, le musée, évidemment, sur une chose comme ça, il sera partenaire. Mais n'oublions pas que dans un an ou deux, les trois musées seront rassemblés à une seule et même structure, une sorte de direction des musées. À partir de là, le rôle du musée Puech, par exemple, historiquement, c'était bien d'accueillir des artistes aveyronnais. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un artiste aveyronnais ?
Mais c'est comme Pierre Soulages, il est bien aveyronnais.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire Camembert normand ?
Ce que je veux dire, c'est qu'il peut sortir aussi un Pierre Soulages, puisqu'il est sorti un Pierre Soulages d'ici de l'Aveyron. C'est le hasard, vous me direz, hein, complet, et la nécessité.
Il y a certainement actuellement des artistes aveyronnais que vous ne connaissez pas, parce que ce sont des artistes aveyronnais qui sont des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui sont dans des écoles d'art, par exemple, qui à Paris, à Montpellier, à Toulouse, et qui seront, dans 10-15 ans, considérés comme artistes aveyronnais, parce qu'on se souviendra qu'ils sont venus d'ici, si vous voulez. Voilà. Moi, j'aime pas les estampilles, j'aime pas les coups de tampon, quoi. Voilà. C'est bon. Je suis un peu libertaire de ce côté-là.
Voilà, donc c'était Benoît Decron, je le rappelle, le conservateur du musée Soulages actuel, puisqu'il existe, hein, réellement, l'entité existe, hein, même si le bâtiment, lui, est en construction. Et Jean-Claude Leroux, vous apprécierez, évidemment, les uns et les autres, cette réponse.
Jean-Claude Leroux, il est quoi ?
Donc, il est artiste peintre local.
Local,
voilà.
Local, c'est pas bien. C'est pas bien, l'Aveyron, c'est pas bien.
Radio locale, c'est pas bien, ça veut rien dire, c'est petit.
Voilà, c'est trop petit, on veut...
Du grand.
Prestige.
Du prestige.
On appréciera le côté libertaire du conservateur Benoît Decron. Moi, j'ai trouvé ce monsieur particulièrement méprisant quand même. J'aime pas du tout son discours.
Il est un peu con.
Ouais, bon.
Il y a un double discours, en tout cas.
Il dit des choses, Moi, son discours, ce qui ressort pour moi dans son discours, c'est le côté que je veux dire que j'apprécie pas forcément et que je pense pas être la seule dans le milieu artistique. Je vais pas généraliser, évidemment. Hein. Je connais plein de gens qui sont dans ce milieu qui sont pas comme ça, mais c'est le côté égo démesuré. Et là, la façon dont on présente Soulages, le musée Soulages, etc., je sens ce truc-là qui transpire. Ah, être à côté d'un grand comme Soulages, enfin... Oui, bon, c'est un monsieur qui a fait des recherches sur le noir.
Mais prosternez-vous, Catherine, je vous en prie.
Des très belles peintures, mais attention, il faut se calmer un petit peu. Et du coup, ils se calment tellement pas qu'ils mettent énormément d'argent derrière. Enfin,
voilà, non, la vérité, c'est qu'il n'y aura pas de place, hein, vous l'aurez compris. Donc, on a fait tout, voilà, je vous ai fait entendre les arguments qui sont évidemment... c'est du sophisme, hein, à un certain niveau.
Mais bien sûr que s'il y aura de la place. Si le copain, à côté, l'artiste local de Monsieur Cron, ou là, viendra le voir, lui dit tu te rappelles, machin, hop, il se sert de.
Peut-être.
Et tu pourrais venir faire une expo chez nous, tiens.
Voilà,
et
donc
après, ce sera un artiste local. Hein.
On est loin d'un art populaire, d'un art
voilà,
local.
C'est la culture d'élite. D'élite méprisante.
Et l'aspect sur lequel moi j'avais insisté aussi, c'était est-ce qu'on pourrait pas imaginer. Mais c'était pareil pour le conservatoire, rayonnement départemental de l'Aveyron. Est-ce qu'il y aura une salle pour l'art dramatique? Bon, toujours pas d'art dramatique. Hein. Je vous signale que c'est départemental. Donc, le siège est à Rodez. Il n'y a toujours pas de classe d'art dramatique. Je ne sais pas pourquoi. Un conservatoire, normalement. Et là,
on
c'est
est
pareil.
Trop rigolo. Donc, on ne peut pas faire fois faire rire et du drame. Quoi.
Bon. Et alors, de l'autre côté, nous avons un musée. Est-ce qu'il y aura une salle? Est-ce qu'il y aura quelques salles pour ceux qui galèrent, effectivement? Parce qu'il y en a beaucoup, on le sait. Ils peignent chez eux, oui, mais ils aimeraient bien, justement, se retrouver peut-être ensemble à l'égal de ce qu'on trouve dans certaines friches.
Il y aura un tout petit pourcentage de ce budget-là, rien que pour favoriser la création locale, justement.
On aurait aimé, oui, tout à fait, cette place-là. Qui n'aurait peut-être pas racheté, si j'ose dire, le prix un peu exorbitant du musée global, mais qui aurait fait, je crois, beaucoup plus pour la culture en général et l'émulation culturelle localement, même si, encore une fois, nous, on ne défend pas le local pour le local. Il y a des gens qui habitent ici, mais ils sont locaux, mais ils viennent d'ailleurs, forcément. C'est un mélange, on est tout à fait d'accord. On n'est pas pour une estampille, on ne va pas remonter au calanque grec pour savoir si vous étiez aveyronnais il y a 500 ans. Ce n'est pas le but. C'est le but des gens qui vivent ici, qui ont décidé de vivre ici. C'est ça, du local, tout simplement. Et je fais remarquer que même les Happy Few de New York, ce sont des locaux de New York. York, tout simplement, par rapport à nous. Donc le centre du monde, il est là où on se trouve et il n'est pas ailleurs que là où on se trouve. Donc ici, on est à Radio Larzac, c'est très bien, Saint-Michel, c'est très joli.
C'est la gare de Perpignan.
Moi, je finirais quand même par dire que là où j'en veux à ces gens-là, c'est que c'est le type de personnes et de projets qui amènerait plutôt les gens qui ne sont pas très ouverts peut-être à l'art et aux pratiques artistiques à être dégoûtés un peu, en fait. Avec ce côté démesuré et d'encenser comme ça et trop d'argent alors que c'est pas déjà leur culture, qu'il y a tout un travail à faire souvent pour pédagogique, pour faire l'initiation.
Alors il y a un volet pédagogique, mais on y reviendra une autre fois parce que l'émission malheureusement se termine.
L'émission va se terminer. Manu, un dernier mot aussi.
Un dernier mot, le centre du monde, c'est la gare de Perpignan, comme il disait. Et il disait donc que c'était un artiste loco. Il faut savoir que loco en espagnol, ça veut dire fada.
Un artiste loco. Moi, je voulais juste vous demander aux uns et aux autres, quand est-ce que vous diffusez cette émission sur vos antennes, Manu, à Radio Saint-Afrique?
Radio Saint-Afrique, lundi matin 9h, mercredi en soirée 19h.
Le 22, dimanche 22 janvier pour la première diffusion, ce sera après le match de rugby.
Sur Radio Temps Rodez.
Et nous, on fait sport et culture tout de suite après, donc à partir de 18h.
Et sur Radio Larzac, le lundi de 11 à 12, rediffusé le dimanche à 11h. Tous les 15 jours, hein, on va dire ça, Nico. C'était Méninges à 3, une émission mensuelle proposée par Radio Temps Rodez, Radio Saint-Afrique et Radio Larzac. On vous souhaite un bon mois de janvier dans le froid, on espère un petit peu.
Et on se retroffe à Saint-Af dans un mois.
Dans un mois.
Merci.